Henri Tinson vient de publier un ouvrage autobiographique intitulé « Moine des cités » où il raconte son itinéraire qui l'a conduit d'une profession financière à la vie monastique à Tamier, puis a fondé la fraternité Saint-Paul dans les quartiers nord de Marseille. Il était à Strasbourg mardi 13 mai et a donné son témoignage à plus de 200 jeunes à la Méno. Henri Tinson a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Henri Tinson, bonjour.
Bonjour.
Il y a 11 ans, vous avez fondé la fraternité Saint-Paul, une petite communauté de prière et de travail en cité HLM dans un quartier populaire de Marseille. Avec ce recul d'une dizaine d'années, comment percevez-vous aujourd'hui votre mission par rapport à l'image que vous en aviez au départ?
Alors ça, c'est une bonne question parce que ce mot de mission m'a toujours posé question. Et une question pourquoi? Parce que justement, pour les moines, a priori, l'idée qu'on pourrait s'en faire, c'est qu'ils n'ont pas de mission particulière. Et pourtant, c'est vrai que si nous allons habiter dans une cité HLM, c'est bien parce que le Seigneur cherche à nous vivre quelque chose, faire vivre quelque chose par rapport à d'autres personnes. Et je dirais que au début, je me suis beaucoup posé la question, bon, mais est-ce que nous annonçons explicitement Jésus-Christ? Et finalement, au bout d'un certain nombre d'années, je suis arrivé à la conclusion avec un moine de Tibérine qui a beaucoup compté pour moi, qui est des moines qui ont été assassinés en 1996 en Algérie, et le plus jeune d'entre eux, Christophe, que j'ai connu, écrivait dans un de ses derniers, dans une de ses dernières lettres, la mission, pour moi, je découvre de plus en plus que c'est devenir frère. Et donc je ne vais pas partir dans cette cité pour que tout le monde soit converti à la fin de l'année, mais c'est à moi d'être converti, de devenir progressivement un être d'amour, un être capable d'être frère de tous mes voisins. Et je pense que c'est là vraiment la mission telle que je pourrais la définir aujourd'hui, et qui n'était peut-être pas complètement en place au départ quand on est allé habiter là-bas.
Alors quand on parle de moine, on pense plus à un moine dans un monastère. Vous êtes moine dans les cités, c'est le titre de votre livre. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution de cette mission du moine?
Oui, alors là c'est intéressant parce que le titre de ce livre, Moine des cités, c'est effectivement une contradiction apparente puisqu'on a l'idée de moines qui sont au contraire séparés du monde, à l'écart. En particulier les moines dans les déserts, puisque dans la tradition monastique, on se réfère beaucoup au père du désert. Alors, c'est là aussi que c'est intéressant de voir que le moine, finalement, tire son nom du grec monos. Monos, ça veut dire un. Et un, finalement, c'est quoi? Ça veut dire célibataire. Donc les moines, ce sont des célibataires. Il y a toujours eu des célibataires dans l'Église. En Occident, on a eu aussi des vies religieuses, des communautés religieuses, mais qui ne se définissaient pas par un lieu. Là, on parle souvent des pères du désert. Les pères du désert, ce n'est pas les pères enseignants, ce n'est pas les pères hospitaliers. Ils ne se définissent pas par une tâche, mais par un lieu, le désert. Alors qu'il y a des congrégations, au contraire, qui en Occident se sont définies par des tâches. Et nous voulons nous redéfinir également comme célibataires habitant dans un lieu. Évidemment, ce n'est pas les déserts d'Égypte. Mais les déserts d'Égypte, à l'époque, c'était déjà les banlieues de l'Empire romain, des lieux où les gens ne voulaient pas spontanément aller habiter, des lieux aussi où les gens pauvres habitaient, où les gens qui étaient rejetés par la société, et même si c'est différent évidemment du milieu très urbain dans lequel on est aujourd'hui, nous cherchons à vivre aussi cette vie monastique dans les banlieues, même si à Marseille il n'y a pas proprement parlé des banlieues, mais il y a ce qu'on appelle les quartiers nord de la ville, et dans ces banlieues, donc, c'est possible de vivre une vie monastique, de prière, de travail, on a choisi une formule de travail à mi-temps, et puis aussi d'hospitalité, puisque dans notre appartement, il y a toujours un frère, toutes les après-midi de l'année, qui est prêt à accueillir comme un portier de monastère. Donc il y a quand même une tradition monastique, mais effectivement, relue en fonction du contexte d'aujourd'hui. Ce que beaucoup de gens peut-être ignorent, c'est que les moines ne sont pas réfugiés simplement dans des lieux de solitude, mais pendant des siècles en Europe, les moines irlandais, par exemple, mais aussi Saint-Martin de Tours, sont allés habiter dans des lieux avec des tribus barbares, comme on disait à l'époque, au moment où l'Empire romain a commencé à s'effondrer, ils allaient habiter dans des lieux où il y avait beaucoup de personnes qui ne partageaient pas la foi chrétienne, qui ne la connaissaient pas, et qui étaient des gens souvent pauvres par rapport justement au cœur de l'Empire, et donc sont allés finalement fonder des monastères, prier, travailler, témoigner de leur foi et être finalement des centres de rayonnement spirituel, mais aussi culturel, d'éducation, de transmission de la connaissance qui a passé par ces moines de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et au temps moderne. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas important que l'Église soit présente sous cette forme-là? Ça, c'est très important, me semble-t-il, comme message, et qu'on fait passer les moines dans les temps anciens et qu'on peut revivre de manière moderne aujourd'hui.
Alors si nous parlons un tout petit peu encore de votre parcours et de la façon dont vous le vivez, vous expliquez dans votre livre que au départ vous aviez une place très en vue dans la société, bien placée. Après vous avez entendu cet appel de Dieu, vous êtes allé dans un monastère comme moine pendant plusieurs années. Maintenant vous êtes toujours moine mais à l'extérieur. Enfin, vu de l'extérieur, ça peut correspondre à des ruptures. Est-ce que pour vous, ces ruptures, ce sont autant d'échecs, ou est-ce que vous y voyez une cohérence dans tout cela?
Ah, ça, c'est une question que je me suis posée moi-même. Et sur le plan spirituel, il serait dangereux de considérer que ça y est, on est arrivé à bon port. Alors, pas simplement évidemment sur des formes extérieures, mais aussi intérieurement, c'est-à-dire qu'on peut toujours vivre au même endroit ou vivre dans le même métier, être dans la même famille, mais en même temps, intérieurement, les choses changent. Mais de toute façon, les paramètres extérieurs, par exemple, pour un père ou une mère de famille, changent, puisque la famille va s'agrandir, ou quand elle est stabilisée, les enfants vont grandir, vont finalement quitter le foyer. Donc on sent que cette fidélité doit être vécue dans les changements. Dans ces décisions, il y a toujours une lente préparation, un lent mûrissement, qui arrive effectivement à une décision qui peut paraître radicale, mais qui n'est pas un coup de tête, qui est vraiment le fruit en fait d'une recherche profonde et qui prend malgré tout du temps et qui va aussi se réaliser dans le temps, puisque bon, par exemple à Marseille, ça fait maintenant 12 ans que j'y suis, et donc c'est pas non plus des caprices, je dirais, quelqu'un qui se réfugierait dans une spiritualité de changement perpétuel.
Donc, à cette question que je vous ai posée sur les ruptures, bon, vous avez répondu par le mot fidélité, c'est ça qu'on peut...
Oui, je crois que la fidélité, c'est extrêmement important, et cette fidélité, finalement, c'est une fidélité à une vérité très intérieure qui se manifeste à l'extérieur. C'est comme l'Esprit Saint, en grec le mot pneuma, qui veut dire à la fois vent et esprit, et qui veut bien dire ce qu'il veut, c'est-à-dire que le vent, on ne le voit pas, mais on va voir les branches qui sont balayées par le vent, on va éventuellement entendre le sifflement du vent, mais le vent lui-même, on ne le voit pas. Mais une vie chrétienne, finalement, est-ce que ça n'est pas être habité par Dieu, et ce Dieu va rayonner à travers un certain nombre de décisions, qui sont parfois des décisions importantes dans les étapes de vie, mais aussi tous les jours, à travers, à mes yeux, les gestes de fraternité qui vont être propres à chacun selon ses talents et puis les appels qu'il peut entendre.
Nos auditeurs sont des personnes très diverses, hein. Il y a des personnes âgées, des jeunes, des personnes en bonne santé, des malades, des personnes croyantes, d'autres qui sont loin de la foi, d'autres qui se posent aucune question. Est-ce que aujourd'hui et maintenant, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à leur dire?
Moi, je leur dirais que contrairement à ce que la plupart des gens ont en tête, il ne faut pas approcher la question de Dieu ou la présence de Dieu ou la réalité de Dieu simplement en termes simplement binaires qui consisteraient à dire j'y crois ou j'y crois pas. Beaucoup de gens parlent de Dieu comme d'une assurance vie. On ne sait pas d'où vient la terre, alors mettons Dieu à cet endroit-là. On ne sait pas ce qui va se passer quand on va mourir, donc mettons Dieu là. Mais laissons-le en dehors de nos vies chaque jour aujourd'hui. Je pense que ce Dieu-là ne m'intéresse pas et n'intéresse personne. Et ce que je propose, c'est au lieu de chercher à prouver l'inexistence de Dieu ou l'existence de Dieu, au contraire, d'engager une quête sur la vie des ici-bas. Et dans mon livre Moines des Cités, j'ai un chapitre qui s'intitule Existe-t-il une vie avant la mort? Et à toutes ces personnes, je leur dis, vous vous intéressez forcément à la vie aujourd'hui, puisque vous êtes de ce monde, et que c'est dans le cadre de cette recherche d'une plus grande vie, d'une meilleure vie pour nous-mêmes et pour les autres, que la recherche spirituelle peut s'inscrire et que nous avons tous à nous entraider.
Et la vie que vous menez vous rend heureux?
Bien sûr, ça c'est un critère essentiel, c'est que Dieu, en tout cas le Dieu que je connais, ne peut pas nous demander de mener une vie qui ne nous rendrait pas heureux et qui ne rendrait pas heureux ceux qui nous entourent. Et très souvent, un de mes jeunes voisins me dit bonjour en me disant je suis toujours content de te voir parce que tu as le sourire, donc c'est aussi un signe de bonheur qu'on peut partager avec nos voisins.
Avec un son, je vous remercie.
Merci.
C'était Henri Quinson, moine dans la ville, fondateur de la Fraternité Saint-Paul dans les quartiers nord de Marseille.